Olivier Ndounguirehe, bonjour.
Bonjour.
Le numéro 2 du régime rwandais, ministre de la Défense, James Kabarebe, était convoqué le 14 décembre par les juges français Herbault et Poux pour être confronté à un nouveau témoin qui accuse le FPR d'être à l'origine de l'attentat contre le président Habyarimana, et Kabarebe a décliné l'invitation. Vous dites quoi? Que la justice française s'acharne?
La justice française s'acharne, mais elle instrumentalise cette affaire en guise de distraction sur une véritable affaire qui est le rôle de la France lors du génocide contre les Tutsis. Il faut savoir que le ministre de la Défense a déjà répondu pendant de longues heures aux questions du juge Marc Trévidic à Bujumbura, et donc il ne peut pas se soumettre à une confrontation avec un témoin de la dernière heure qui s'est souvenu 23 ans après les faits et 20 ans après le début de l'enquête, qu'il était témoin direct de l'attentat. Et j'ajoute même qu'il n'avait même pas 18 ans lors de l'attentat contre l'avion du président Adelman. Donc, il est impossible pour le ministre de la Défense de jouer à ce petit jeu de manière indéfinie.
Alors, toutes les archives françaises sur le génocide n'ont pas été déclassifiées. C'était pourtant une promesse de François Hollande. Qu'attendez-vous exactement d'Emmanuel Macron aujourd'hui?
On attend d'Emmanuel Macron et du gouvernement français qu'ils collaborent avec le Rwanda sur l'établissement de la vérité concernant le rôle de la France lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le président Macron a déclaré à plusieurs reprises, y compris à Ouagadougou, que c'est un homme nouveau d'une nouvelle génération qui laisse les relations passées de l'Afrique avec la France, je dirais, dans le placard et qui s'engage dans une relation nouvelle. Et pour prouver cela, il est nécessaire que le président Macron collabore à l'enquête rwandaise qui avait commencé en novembre 2016. On a demandé à la France de collaborer, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Avec ce rapport, le rapport MUSE, on espère que la justice française et le gouvernement français vont enfin collaborer pour que la vérité éclate, non seulement pour le peuple rwandais, mais aussi pour le peuple français et pour l'histoire.
Vous évoquez le rapport américain d'un cabinet d'avocats américains pointant la responsabilité française.
Exactement. C'est un rapport qui reprend des documents qui sont déjà dans le domaine public. Ce sont des documents qui viennent principalement de la France, des câbles diplomatiques, d'autres rapports, et qui prouvent, s'il en est encore besoin, comment la France a collaboré avant, pendant et après le génocide avec les forces génocidaires.
Alors, vous le disiez à votre façon, mais le président Emmanuel Macron, en 94, était sur les bancs de l'école en short. À Paris, on veut croire effectivement que le génocide fait partie de l'histoire avec un grand H. Donc, pour engager de nouvelles relations entre Kigali et Paris, qu'est-ce qui manque concrètement? Des mots, un geste de la part de Macron?
Le Rwanda ne veut pas de vengeance. Nous, ce qu'on souhaite, c'est justement bâtir des relations franches avec le gouvernement français, qui est un grand pays. On ne peut pas avoir une relation, je dirais, d'hypocrisie, où on s'échange des ambassadeurs tant que des choses fondamentales soient faites pour que ces relations soient établies sur de bases saines.
Alors, le Rwanda a annoncé accueillir 30 000 migrants de Libye. Les opérations de rapatriement d'accueil ont-elles commencé, monsieur le ministre?
Pas encore. On a écrit à la Commission de l'Union africaine pour qu'on identifie les personnes qui seraient disposées à être rapatriées chez elles, mais aussi celles qui seraient disposées à venir au Rwanda.
Donc ça va prendre du temps. Par ailleurs, un accord a été conclu entre Israël et Kigali permettant à Jérusalem d'expulser vers le Rwanda 10 000 Soudanais et Érythréens. Et Kigali donc devrait, dit-on, percevoir 5 000 dollars pour chaque réfugié. Ça fait scandale apparemment en Israël. Vous cautionnez un tel accord?
Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais fake news. On est en discussion depuis 3 ans, mais aucun accord n'a été adopté entre les deux pays.
Alors ça, c'est pas fake news. Le Rwanda est une réussite économique. Paul Kagame a été réélu le 4 août 2017 pour un troisième mandat de 7 ans, largement réélu. Mais alors, paradoxe, monsieur le ministre, les opposants sont réduits au silence, emprisonnés. Les militants des droits de l'homme dénoncent enfin un climat de peur généralisée.
C'est vrai qu'il y a quelques opposants à l'extérieur, et la plupart d'ailleurs, qui sont caractérisés par une idéologie du génocide. Je parle des Ndjili et d'autres qui contestent le fait que le Rwanda est un pays qui a des institutions, qui a des règles démocratiques, et le président a été élu pour un autre mandat. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, mais pour leurs faits individuels. comme victoire Ingabire.
La Cour africaine des droits de l'homme dit en substance que Paul Kagame ne supporte aucune critique, tout simplement sur ce dossier de Madame Ingabire.
Les preuves les plus accablantes sont venues de son appartement aux Pays-Bas, où on a établi qu'elle était en train d'organiser une rébellion armée au Congo. Et c'est la police néerlandaise qui a trouvé cet organigramme annoté de sa propre main. Donc lorsqu'on parle de Paul Kagame dans cette histoire, je ne comprends pas ce qu'on veut dire.
Ce qu'on veut dire, monsieur le ministre, c'est qu'après sa très bonne réélection en août dernier, les observateurs politiques pensaient que la démocratie rwandaise allait être enfin apaisée, j'allais dire.
Mais il ne peut pas y avoir d'apaisement avec la loi.
Il existerait des centres de détention non officiels où l'armée rwandaise torture, c'est ce qu'affirme Human Rights Watch. Plus de 100 cas ont été documentés entre 2010 et 2016.
Ah, mais l'histoire entre Human Rights Watch et le Rwanda, vous la connaissez très bien. Le directeur de cette association, Kenneth Roth, s'est engagé dans une opération, disons, de dénigrement de notre pays et de notre président.
Olivier Ndoungiré, merci.